Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un événement difficile, inattendu, vient transformer positivement la vie de ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nabila Benohoud, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment allez-vous?
Bien, très heureuse de vous avoir et merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui.
Le plaisir est pour moi, merci pour l'invitation.
Alors Lala Nabila, une question qui me... En fait, je me suis dit, je vais commencer par ça. Je me suis dit, Nabila, on la connaît beaucoup à travers les émissions d'accompagnement, de conseils aux familles, le développement personnel, tout ça. Mais quand Nabila ne va pas bien, c'est vers qui qu'elle se tourne?
Alors, vous allez rire, mais je me tourne vers moi-même d'abord. C'est vrai que je me conseille, je pense que je suis celle qui me connaît le mieux, mais sans aucune prétention, franchement. Mais il y a aussi des personnes ressources autour de moi à qui je fais appel, parce que j'ai toujours besoin, en fait, on a toujours besoin d'une écoute empathique, d'une personne qui nous écoute sans pouvoir nous juger, qui nous pose les très bonnes questions et qui nous permet effectivement, en fait, de nous voir autrement, de nous recadrer pour qu'on puisse avancer. C'est comme n'importe quel praticien, un médecin ou un dentiste ne peut pas se soigner lui-même, donc il a besoin d'un confrère pour pouvoir le faire. Et donc, pareil, et des fois, les personnes ressources ne sont pas forcément peut-être des personnes dans l'accompagnement, dans le coaching. Ça peut être une personne qui a une caractéristique spécifique, en fait, une qualité déterminée qui nous permet, nous, de ressortir ce qui ne va pas chez nous, jusqu'au moment où on arrive à avoir cet équilibre émotionnel nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir gérer nos émotions au quotidien.
Est-ce que, par exemple, il vous arrive d'avoir des discussions intimes de vous avec des copines?
Mais c'est possible, bien sûr, en fait, quand on arrive à un stade où l'émotion, en fait, prend le dessus de la chose, on a besoin, bien sûr, de l'autre. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de recul par rapport à avant, c'est-à-dire la Nabila d'autrefois, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de recul, il y a déjà, pour que je puisse arriver à ce stade de déséquilibre, en fait, vraiment, il en faut beaucoup. Donc, heureusement, le travail en amont permet de filtrer, de rééquilibrer, de faire beaucoup de choses. Et donc, mais quand ça arrive, bien sûr, je vais choisir cette personne, en fait, devant qui je peux carrément me déshabiller sans aucun problème. C'est-à-dire, oui. Je sais qu'il n'y a pas de jugement, je sais qu'il y a de la bienveillance, je sais que cette personne, elle est là. C'est le miroitement de ce que je dis pour que je puisse bien l'entendre. C'est comme si j'ai besoin d'entendre ma voix, mais via le feedback que l'autre me donne. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on a tous besoin de quelqu'un.
Alors, justement, le fait d'être comme ça, avec ce recul, cette connaissance de soi, est-ce que c'est intimement lié à ce parcours dans le coaching? Ou est-ce que vous avez toujours été comme ça?
Non, en fait, à un moment donné, bien sûr, de ma vie, j'étais pas comme ça, bien sûr. C'est-à-dire, il a fallu beaucoup de prise de conscience par rapport à soi, à la connaissance de soi, à l'évolution. Et le coaching en est pour beaucoup. Vous savez, Yasmine, moi, le coaching, j'ai jamais fait mes formations pour devenir coach. En fait, c'est à un moment donné de ma vie où je me suis sentie vide et vidée d'un certain nombre de choses. Je me suis dit, bah tiens, va faire une formation, ça va te faire du bien. Et ça a commencé comme ça.
C'était va faire une formation de quoi? Vous étiez dans quoi, justement?
Alors moi, à la base, je suis professeure de communication à la faculté de droit à Agdel. Et donc, c'est vrai que j'étais toujours dans la com, j'étais toujours dans la psychologie de la communication avec mes étudiants. J'avais toujours cette petite fibre, en fait, dans l'écoute, l'accompagnement, les conseils qu'on vous avait dit par rapport à la jeune génération. Mais à un moment donné, je sentis que moi, bien sûr, je fais tout ça, mais j'étais vidée. Donc là, j'étais en train de chercher une formation et parce que la PNL m'interpellait, donc j'ai cherché une formation en PNL pour moi. Je me suis dit non, mais là il faut que tu puisses un tout petit peu te ressourcer parce que ça ne va pas du tout, beaucoup de choses ne sont pas claires dans ta vie. Et ça a commencé comme ça, c'était vraiment un travail pour soi. Pour moi-même, ça n'avait rien à voir avec une ambition de changer quoi que ce soit parce que je suis toujours professeure, sauf que j'ai des outils aujourd'hui qui peuvent me permettre d'être beaucoup plus performante et vraiment réussir cette opération d'accompagnement. Et donc, c'est là, c'est-à-dire c'est là où j'avais fait les plus grandes découvertes de moi-même. C'est là où j'ai pu me connaître encore et encore, me redécouvrir différemment. J'ai pu me pardonner pas mal de choses. J'ai commencé à devenir plus indulgente avec moi-même. J'ai, en fait, me permettre des erreurs, alors qu'avant, peut-être, si je commettais une erreur, non, il ne fallait pas, pourquoi ? Et il y avait cette autoflagellation des fois, parce qu'il y a ce souci de performance qui est toujours important. Et là, bien sûr, la PNL m'a permis beaucoup de paix intérieure. Une quête de soi, une rencontre avec soi, et une paix qui s'est installée pendant des années. Ce n'était pas, bien sûr, du premier
du jour au lendemain, absolument.
Voilà, exactement. Mais ça a pris du temps. Moi, je dis toujours, c'est un voyage de la chrysalide au papillon. Et ça continue.
Alors, est-ce que ce voyage vous a aussi permis peut-être de mieux gérer des moments personnels complexes et compliqués ?
Oh que oui, oh que oui. Bien sûr, le côté relationnel est très important en fait. Avec des outils, on arrive à le gérer mieux. On arrive à mieux exprimer ce que nous ressentons. On arrive à mieux, bien sûr, pardonner l'autre, comprendre que ce que fait l'autre n'a rien à voir avec nous, mais ça a un rapport direct avec lui-même, avec ses soucis à lui, avec son vécu à lui, c'est-à-dire se dissocier toujours d'un certain nombre de choses et de situations, et bien sûr, on réussit à mieux gérer nos relations sociales, nos relations de couple, nos relations aussi avec nos enfants. Moi, je dis, la plus grande en fait, chance que nous avons, si on a des outils, c'est d'abord réussir aussi cette relation au quotidien, avec les enfants qui grandissent, avec les adolescents.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez ressenti ce vide qui vous a poussé par la suite à aller vers ces formations ? Vous étiez déjà installé professionnellement, professeur à l'université, donc maman, etc. Mais ce vide-là qui est venu se manifester, c'était quand exactement ?
Alors, vous savez, moi, en 2011, j'avais fait un accident presque mortel. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, parce qu'ils croient qu'on est mort et qu'on est ressuscité, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste une expérience, on s'approche réellement de la mort, on rentre dans un coma et tout. Alors ça, c'était la première expérience très douloureuse, alors que j'étais enceinte de mon deuxième. Et là, tout ce qui a été vécu, c'était en 2011.
Ok, donc vous avez fait un accident, vous êtes rentré dans un coma.
Oh oui.
Pendant
alors,
combien de temps ?
Alors, le coma, ça a duré 2 jours, 3 jours.
Et mais, enceinte
J'étais enceinte. Okay. Heureusement, le bébé est, bon, il a 11 ans aujourd'hui.
Tabarakallah, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Et à ce moment-là, tout ce qui s'est passé, c'était... j'avais un message j'ai entendu, tu resteras vivante pour cet enfant. Tu resteras vivante pour cet enfant. Ça, c'est un message que j'ai entendu.
Pendant
au moment
avec
de
le moment du coma.
Exactement. Okay. Alors, et par la suite, bien sûr, il y avait tout le. Voilà, j'étais enceinte, il fallait accoucher, j'étais toute fracturée, les soins, les médecins et tout. Donc, ça, il y a un cumul, et bien sûr, la faiblesse physique, psychique, tout le reste. En 2014, j'ai perdu mon père dans un accident. Moi, j'avais fait un accident. Mon père, en fait, est décédé là, un accident. C'est dans 2014, juste après, j'ai senti que je n'ai plus de quintessence, ni d'essence, ni d'âme. J'ai senti que c'est fini. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis un corps, mais il y a quelque chose qui me manque. Et c'est là où j'avais décidé justement de chercher quelque chose qui pourrait me permettre de respirer, de revivre, parce que...
Dfeti de l'intérieur.
Ouais, exactement. Parce que en plus, ce que j'ai toujours eu peut-être comme qualité, c'est que je suis une battante et je suis quelqu'un qui aime la vie. Je dis quand même, la vie mérite d'être vécue. Et c'est là où j'ai commencé justement mon parcours coaching. Donc, c'est là
Mais
où
Nabila,
j'ai pu...
pardon, ce moment de vide était normal. C'est le deuil.
Oui, oui.
C'est le deuil.
Mais je comprenais pas parce qu'il y avait un cumul de beaucoup de choses. Il y avait moi et mon accident et j'ai pas réussi à extérioriser tout ça. L'accident de mon père qui a ressorti l'expérience douloureuse de l'accident, ma faiblesse physique, tout allait mal. C'est vrai que voilà, je ne comprenais pas, mais heureusement, le coaching m'a permis aussi de faire un deuil en bonne et due forme. J'ai pu vraiment me libérer d'un certain nombre de choses et de faire la paix avec beaucoup de choses.
Est-ce qu'au moment où vous êtes sortie du coma, avec après ce gros accident, ces fractures, etc., est-ce que les médecins qui vous prenaient en charge, est-ce qu'ils vous ont orienté vers une prise en charge psychologique à ce moment-là ?
Alors, j'avais fait ça moi-même, c'est-à-dire, non, les médecins ne m'ont pas demandé de le faire, mais moi, j'ai fait, bien sûr, une, en fait, pour le syndrome post-traumatique, j'étais voir un médecin, et bien sûr, le médecin, tout de suite, m'a prescrit des antidépresseurs que j'ai refusé de... En fait, j'ai refusé de prendre, mais parce que le médecin insistait tellement, j'ai dit que je les prenais, mais je ne les ai pas pris du tout.
D'accord.
Et je me disais, non, le message était clair, je resterai vivante pour ce bébé, je ne peux pas prendre des antidépresseurs alors qu'un bébé est dans mon ventre. Et ça, c'était la décision. Par la suite, j'ai accouché en France, je suis partie accoucher en France, et il y avait une prise en charge de la psychologue de la maternité sur place. Elle était avec moi-même dans la salle d'accouchement. Et pour l'anecdote, à chaque fois, elle me disait « ça va, le bébé blues, vous ne rejetez pas bébé ». Je l'ai regardée, je lui ai dit « je suis marocaine, madame ». Vous savez, une marocaine, elle survit grâce à l'hamdoulilah. Pour moi, le fait que je vous parle aujourd'hui, que j'ai ma tête qui fonctionne, là, je dis « alhamdoulilah, je ne veux pas rejeter le bébé ». Le bébé, pour moi, c'est mon sauveur. Mmh. C'est le héros qui m'a permis de me maintenir en vie. Et il y a ça, c'est-à-dire il y avait toujours ce côté au moi-même qui disait non, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu te lèves, c'est bon, ça va aller. Mais c'est tout à fait normal à un moment donné qu'il y ait un cumul de choses. On va s'affaiblir et baisser les bras peut-être.
Alors, vous avez peut-être à travers cette expérience un lien très particulier avec ce bébé aujourd'hui, ce petit garçon de 11 ans. Est-ce que sa sœur aînée n'est pas un peu jalouse de cette relation ?
Non, mais ils se chamaillent tout le temps, comme les enfants. Des fois, ils ont leur moment de jalousie. Mais nous avons des relations... C'est vrai que j'ai une relation particulière avec lui, mais j'ai une relation particulière avec elle aussi. Ce sont deux relations différentes.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, j'ai vécu l'expérience de mort imminente. Beaucoup de personnes pensent que c'est décéder, revenir, alors que c'est pas... Alors, c'est quoi exactement ?
Mais moi, je pense tout simplement, parce que scientifiquement, Yasmine, on ne peut pas mourir et ressusciter, en fait. Je pense qu'il s'agit uniquement d'une expérience où on s'approche réellement de la fin, c'est-à-dire on se dissocie complètement du monde. La dissociation du corps, je pense que nous vivons une expérience déterminée où, en fait, je me suis vue dissociée de mon corps.
Alors, vous l'avez vécu, ce truc, sortir du corps et voir la pièce d'en haut et le tunnel.
C'était un gouffre, mais au bout, il y avait beaucoup de lumière. Et à ce moment-là, je sentais effectivement que ça me faisait beaucoup de bien de rejoindre la lumière.
Ça, c'est incroyable.
Et quelque chose me disait, c'est là où j'ai entendu la voix me dire « mais tu resteras vivante pour cet enfant ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu as envie de partir.
Oui, on se sent tellement bien qu'on a envie de partir.
Exactement. Exactement. Et ça, moi, je ne savais pas que ça s'appelle expérience de mort imminente. J'ai découvert ça après. Après, en fait, par hasard, j'étais en train de faire une lecture et j'ai compris ça. Et là, pour la première fois, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, voilà ce que j'ai vécu réellement à ce moment-là. Voilà comment ça s'est présenté. Et pour vous dire, c'est-à-dire quand je me suis réveillée après l'accident, j'étais zen, mais d'une manière incompréhensible. Tout le monde pleurait autour de moi. Je les regardais pleurer. Je leur dis « qu'est-ce que vous avez ? Je suis bien. Je suis vivante. » Il y avait une gratitude, mais impressionnante. Mais eux, ils n'avaient pas compris pourquoi j'avais autant de gratitude et de paix, alors que je les voyais vraiment, parce que j'étais dans un état catastrophique quand même. Je me suis fait opérer. Il y avait beaucoup de choses. J'avais un matériel orthopédique. J'avais beaucoup de dégâts. Et moi, j'étais bien. J'étais zen.
Ouais. Et alors, on sort comment de ce genre d'expérience ?
Tout dépend de chacun, justement. Moi, je suis sortie, en fait, avec ce sentiment de gratitude profond. Mais il y a des personnes qui le vivent mal, qui se réveillent avec une colère. Mais
c'est vrai ? Vous avez rencontré des personnes comme ça ?
Oui, j'avais rencontré des personnes qui ont très très mal vécu ça et qui sont dans des dépressions jusqu'à aujourd'hui, comme j'avais rencontré des personnes qui sont zen, qui leur vie a complètement changé depuis. J'avais même été en fait témoin dans deux livres en fait avec des une auteure française où j'ai en fait on appelle ça on est des expérienceurs nous appellent. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui le vivent très mal. J'avais reçu pas mal de messages quand j'avais fait une émission avec un Belge. Anna, je crois vraiment que La Spanota, elle m'aime beaucoup. C'est pour cette raison, j'ai pas été paralysée. J'ai pas perdu le bébé. Pour moi, c'est une chance de pouvoir revivre. Moi, je dis, c'est une deuxième vie. Une deuxième vie avec beaucoup de prise de conscience et une deuxième vie avec beaucoup de sentiments de gratitude. Vraiment, aujourd'hui, moi, je peux vous dire que la gratitude que je ressens peut-être est très particulière parce que je sais qu'est-ce que c'est qu'être vivant, je sais qu'est-ce que c'est que pouvoir marcher, pouvoir voir, je sais qu'est-ce que c'est qu'être protégé par un aura quelconque. Et ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Mmh. Et même quand ça va mal, je dis Alhamdoulilah, moi j'ai tout ça, ou je veux me plaindre. Et il faut se calmer un petit peu. Ça marche pas comme ça. Là, la vie, c'est une chance. Chaque minute que nous avons, c'est une chance pour pouvoir justement vivre.
Alors justement, aujourd'hui, quand on entend parler des expériences de mort imminente, aujourd'hui, vous savez ce que c'est?
Oui, je pense que je sais, mais chacun vit son expérience différemment. C'est le truc que ni moi ni les autres ne peuvent savoir comment X personne va vivre son expérience, mais je comprends qu'est-ce qui se passe. Le cerveau, votre cerveau vous fait vivre des choses. Et il faut être logique aussi. Il faut dire que, voilà, quand on arrive à un certain degré de douleur et de souffrance, bien sûr, on se détache de tout. On se dissocie de tout. Et peut-être ce sont nos souhaits les plus profonds qui nous poussent à voir peut-être une lumière, peut-être pour la délivrance, pour quitter cette douleur. Mais je pense aussi qu'il faut le prendre avec beaucoup de précautions et beaucoup de clairvoyance. Il ne faut pas tomber dans les amalgames parce que j'ai fait pas mal de lectures et des fois, les gens croient que voilà, on part à l'au-delà et on revient. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est tout simplement, c'est physique, c'est scientifique et le cerveau, bien sûr. Et ce que chacun vit, c'est, en fait, est vrai, est réel parce que personne n'a le droit de dire non, c'est pas vrai. Non. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Maintenant, ça n'engage que moi. Je l'ai vécu et tout ce qui a été en fait vécu par la suite, en fait, émanait de ce moment-là. C'est pour moi, c'est le moment culminant en fait qui a vraiment changé ma vie, qui a pu transformer ma vie. C'est-à-dire pour moi, toutes les décisions qui ont été prises par la suite venaient de ce moment-là. Donc c'est peut-être pour moi-même, je dis, c'était une chance que j'ai pu vivre, que d'autres n'ont pas pu vivre. Et voilà, c'est pour cette raison que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
Eh bien, Nabila Benohoud, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci Yasmine, merci à vous.
Merci beaucoup pour la confiance. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.